Le titre que vous venez d'écouter à l'instant, c'était Vampire Song Part 2 par Double Elvis. Vous êtes toujours sur Fréquence Mutine 103.8 FM à Brest et en streaming, on le dira jamais assez, sur le www.fréquencemutine.net. Vous écoutez 16174. C'est peut-être un petit peu tôt pour le dire, comme tu le disais, en fait, le disque n'est sorti que le 16.
Oui.
Mais quelle est la perception pour l'instant? Ben, public, peut-être, c'est peut-être un petit peu tôt pour le dire, mais au niveau presse, au niveau média, est-ce que tu as déjà des retours, un peu de feedback?
J'ai eu un peu de feedback d'Allemagne.
Ouais.
Ouais. Excellent feedback d'Allemagne, carrément.
Il a été chroniqué?
Il a été chroniqué.
Dans un webzine ou c'est un...
Dans deux webzines différents.
D'accord.
De gens assez surpris, d'ailleurs, ça vient de France. Ce genre de truc.
C'est bien, faut les surprendre.
Ouais, voilà. Donc pour l'instant, c'est tout frais.
Ouais, c'est tout frais, ouais.
Mais pour l'instant, c'est tout bon.
D'accord.
Mais je pense qu'on va se faire cartoucher aussi, un de ces quatre.
Ouais, en même temps, ouais.
Peut-être un petit peu plus près d'ici d'ailleurs, mais bon, on verra bien.
Ouais, on va parler justement de l'aspect promotion et structure de management. J'ai vu que tu travaillais avec une structure brestoise qui s'appelle Organic.
Tout à fait.
On peut en parler un petit peu?
On peut en parler beaucoup si tu veux.
Oh, sure.
Ça, c'est Gwen qui va en parler.
Voilà, ça va être moi qui m'y colle.
Voilà.
Vas-y, envoie les questions.
On va.
Il a fait déjà.
J'ai déjà fait la question. Ouais, Organic Management. Alors, comment ça se passe avec Organic Management?
Eh ben, écoute, c'est d'abord Cédric qui s'occupe de nous, alias Gomina.
Que l'on connaît bien ici.
Pour les, pour les intimes. Voilà. Et Cédric est en charge de tout ce qu'on appelle le relationnel entre le groupe lui-même et toutes les infrastructures qui sont en charge de développer la musique.
Ouais.
Donc que ce soit un tourneur, un producteur et organisateur de spectacle. Donc c'est une grosse part du travail qui est pas toujours facile à gérer naturellement, mais qui est super importante pour les musiciens dans le sens où comme disait JC à juste titre tout à l'heure, on peut pas tout faire et il faut savoir déléguer. Et pour ça, il faut savoir déléguer à des personnes de confiance, des personnes qui connaissent le métier et qui sachent de quoi ils parlent et qui se sentent investis aussi par le projet. Et Cédric, en l'occurrence, nous a contacté il y a quelques temps maintenant. Ça fait, mettons 4-5 mois.
Ouais, ça fait il y a 4-5 mois.
Il y a 4-5 mois.
Je me rappelle, c'était pas pendant les trans. Je crois qu'il me l'a annoncé au trans, en fait.
Et donc, maintenant, on travaille ensemble, donc avec Organic. Le courant passe bien, les idées sont là. Je pense que l'idée de cheminement en tout cas est le même et l'envie d'aller plus en avant est le même aussi est la même aussi, donc c'est vraiment très important parce que bien souvent on peut faire un groupe, créer de la musique, avoir l'envie de partir et se retrouver avec une personne qui n'est pas dans le même mood et qui n'a pas non plus spécialement le feeling pour ça, quoi.
Ce qui est surtout important aussi c'est d'être représenté correctement. C'est pas forcément le métier du musicien qui est pas toujours le mieux placé pour se vendre, tu vois,
c'est clair,
ou pour vendre sa cam, quoi.
Ouais,
souvent on me dit
fait.
Mais Double Elvis c'est quoi, bon. Et en fait c'est vrai que c'est l'interlocuteur idéal,
Et ça peut être aussi une histoire
ni parti mais qui présente l'affaire comme il faut. Moi je l'ai vu à l'œuvre en plus, tu vois.
Il a une expérience déjà
grosse expérience et puis voilà, on s'entend plutôt bien. Parce que Double Elvis, c'est une histoire un peu compliquée, hein, parce qu'on est un petit peu à cheval entre la France, l'Allemagne, tu vois, donc faut dealer tout de suite sur, c'est pas un groupe local. Si, évidemment que c'est un groupe local, mais il faut aussi aller chercher des passerelles avec ailleurs, quoi. Donc, faut quelqu'un qui ait un minimum d'envergure aussi, quoi.
C'est clair. Surtout, vous avez déjà pris pas mal de contacts avec l'Allemagne, vu les tournées, vu, les aspects label, distribution, etc.
Bah oui, complètement. Donc il nous faut vraiment quelqu'un qui fasse le pont entre tout ça. Et moi je veux pas le faire.
D'accord. Oui, ce qui est compréhensible.
Enfin, j'ai déjà cette taf comme ça.
C'est clair. Donc le label, on en a parlé un petit peu, mais eux vont en fait sortir le produit. Est-ce que ils vont être en charge, je parle d'Ecozone, d'un aspect promotionnel?
Ah ben complètement.
Oui.
Complètement. Complètement, parce qu'en fait, ils sont licenceurs, donc ils sont distributeurs et en charge de la promotion.
Ouais.
Ils sont éditeurs aussi.
D'accord.
Donc c'est à eux de promouvoir les morceaux et de les faire vivre de par le monde, quoi.
Mmh.
Mais encore une fois, là, ils sont en train de grossir, là. Ça commence à devenir pas mal du tout.
Ouais, parce que ce qui est intéressant à savoir, je sais pas si tout le monde le sait, et d'ailleurs, on est peut-être là aussi pour le souligner, c'est que entre la licence et l'édition, le travail n'est pas le même.
Mm-hmm.
C'est-à-dire que la licence, naturellement, c'est une signature en fait pour un album ou pour différents albums, etc. Enfin, mm-hmm. c'est une chose qui maintenant n'existe quasiment plus. On signe en général pour un album avec une promotion pour un album.
Ouais.
L'éditeur est vraiment en charge en fait de promouvoir le titre en lui-même, mais pas uniquement en tant que titre, mais aussi en tant que ça peut très bien être une bande originale pour un film, pour une série, pour la télévision, et tout ça. Donc en fait, c'est presque une double étiquette et un double rôle.
Ouais. Donc ils sont plus investis en fait par la musique.
Et tu vois, pour terminer sur Organic, ce qui a été intéressant aussi de bosser dans le fait de travailler avec eux, parce qu'en fait, Organic, c'est pas que Cédric, hein, c'est un collectif de managers. Et ce qui a été intéressant aussi, c'est quand les contrats sont arrivés d'Allemagne et qu'il a fallu viser ces contrats, vraiment jeter un œil dessus. Tu vois, moi, j'y connais pas plus que ça, malgré que j'ai fait quand même.
Il y a les aspects juridiques.
Voilà, des aspects juridiques, tout ça. Là, le management aussi, c'est super intéressant.
C'est clair. C'est clair. Ouais. On peut citer les groupes qui sont managés par Organic.
Hein. Bah oui. Ah bah, il y a Sherka, il y a Rotor Jambrex. Il y a Siam.
D'accord, également, ouais.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vais en oublier et ils vont pas être contents. I Come From Pop, excellent groupe, I Come From Pop.
D'accord, ils sont aussi...
Moi, j'ai découvert à la Carène. Mm-hmm. Double Elvis, et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour.
Ouais. Et les différentes moutures des projets de Retour sur Moex, hein, parce qu'il y en a
complètement.
Beaucoup.
Complètement. Mais ce qui est intéressant qu'Organic, c'est si un jour, sait-on jamais, il y a un plateau organique avec tous les groupes managés, ça va être assez marrant, quoi. Ça va être assez, ça va être assez chamarré.
Ça serait éclectique. C'est
vraiment, ça part dans des styles, tu vois. Ne serait-ce que Siam et Double Elvis, tu vois, c'est deux mondes, mais
totalement.
Mais qui pourraient, pourquoi pas, quoi, tu vois. Ça pourrait être super intéressant.
Ouais. Vous avez parlé un petit peu de tourneur. Est-ce que dans les mois à venir, peut-être pour la promotion de l'EP, ou ce sera peut-être plus lié à l'album, mais est-ce que vous avez prévu de faire des tournées? Est-ce que vous avez déjà des contacts avec des tourneurs? Ou tout simplement, est-ce que pour la période des festivals qui va commencer bientôt, est-ce que vous avez des choses de prévues?
Eh ben, tu sais quoi? On n'en parlera pas.
Ah!
Je t'appellerai demain.
D'accord. Il y a des infos qui doivent tomber.
Écoute, on verra bien.
D'accord.
Demain. Non, pour le reste, par contre, cet été, ça va plutôt être un été studio, parce qu'on a l'album à faire.
Oui, bah oui.
Il faut livrer le master en octobre. Donc, honnêtement, on n'a pas vraiment cherché pour cet été.
D'accord.
On a été des grosses feignasses, mais on a beaucoup de travail à faire.
Oui, effectivement, il y a quand même. On va en parler un peu.
Si, on sera en Allemagne au mois de juillet.
Ouais, petit retour en Allemagne.
On fait un gros festival à Mechelen, dans la Ruhr.
Ouais.
Et pour le reste, on va jouer à Nantes au mois de septembre, ça sera pour plus tard. Mais non, il faut. On a beaucoup trop de travail et trop peu de gens.
Ouais, d'accord, pour penser à ça. Ok. Ce sera, j'imagine, le travail de fond une fois que l'album sera sorti.
Mais complètement.
Ouais, ok.
Mais même avant qu'il sorte, hein,
oui.
D'avoir des vraies grosses tournées en perspective, quoi.
Ouais, d'accord. Pour continuer un petit peu sur la promotion, parler un petit peu des vidéos. Vous avez des choses de disponibles en termes de vidéos?
Sur Internet.
Ouais.
Ouais. Mais ça reste du clip maison.
D'accord, ouais.
C'est encore fait dans ma chambre.
Avec un petit caméscope.
Ouais.
Ouais. D'accord.
Donc ça y est.
Est-ce que typiquement le label pourrait se sentir investi d'une mission là-dessus ou pas?
Oui, bien sûr.
Ouais.
On n'en a pas encore parlé, mais c'est dans les tuyaux.
C'est dans les tuyaux.
Ouais.
Typiquement, le titre Vampire Song.
De quoi faire, ouais.
Hein,
ouais.
Ouais.
Surtout en Allemagne.
Surtout en Allemagne, absolument.
On n'est pas très loin du pays des vampires.
Oh, les tournées dans les Carpates.
Bah ouais. Bah, tu sais qu'en fait, Vampire Song, moi je l'ai écrit à cause ou grâce à Klaus Kinski, avec son rôle dans Nosferatu à l'époque.
Ouais.
Mais c'est un film qui n'est pas très très connu finalement. J'en parle autour de moi souvent en interview.
Ça reste underground, tout ça.
Les gens se rappellent vaguement du film de Murnau.
Ouais.
Mais voilà quoi. Alors que la prestation de Kinski était absolument géniale dans ce film-là, mais ça passe pas très souvent à la télé.
Petit rappel, c'est Vampire Song qui va faire les petits rappels.
Écoute, j'espère bien, mais en même temps, on parle plutôt de Twilight, moi. Et à chaque fois,
je t'ai laissé le faire.
À chaque fois, j'ai un petit frisson parce que bon. Bon, maintenant, s'ils veulent prendre Vampire Song sur Twilight 3, tu vois, je pense que mon banquier serait content.
Le mot est passé, hein. Enfin, voilà. Hein.
Ouais, ils nous écoutent, hein, d'ailleurs, à Los Angeles. Hein.
C'est clair. Peut-être pas tout de suite, mais ils écouteront après, plus tard. Tu vas voir. On continue un petit peu sur, sur les aspects sortie du disque en lui-même. La situation du marché du disque actuel, qui n'est pas réjouissante, comment tu la vois et comment tu te places, toi, avec ton projet musical et la sortie de ton album là-dedans?
Vaste débat.
Ouais.
Ce qui pose toujours problème, c'est le support physique. Qu'est-ce qu'on en fait de ce CD-là? Est-ce qu'on le garde ou est-ce qu'on le jette une bonne fois pour toutes? Parce que là, on est dans une espèce d'hypocrisie latente.
Ouais, complète.
Ne serait-ce que par rapport à la Dopi, tu vois, encore une fois, un truc impossible à mettre en place. Quelle solution adopter? Franchement.
Je comprends, je pense que personne ne l'a, en fait.
Mais personne ne l'a parce que. Internet, c'est un espèce d'océan. Et comment veux-tu rentrer l'océan dans un verre d'eau? Tu vois,
c'est, non, mais c'est plutôt un gouffre aussi, quoi, en même temps. Donc,
Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que pour le coup, par contre, il faut qu'on arrête tout, c'est-à-dire la production du CD physique? Est-ce qu'on arrête une bonne fois pour toutes de produire des albums? Parce que le problème, c'est un petit peu ça aussi. Tu vois,
derrière, effectivement, il y a la survie de l'album.
Et la survie de l'artiste aussi. Tu vois.
Ah, forcément.
Je pense qu'on est dans, on est rentré en plein dans un véritable clivage entre deux générations. Une génération qui est vraiment à usage unique, c'est-à-dire qu'on prend un titre, on le sort de l'album, on l'écoute dans son MP3 et on en fait ce qu'on veut, on le fait écouter à ses potes, on le met sur son Facebook et compagnie. Ouais. Et la génération d'avant qui est un peu plus fétichiste avec on prend le CD comme un objet, comme quelque chose qui devient presque limite décoratif tellement on est fan du groupe et de l'image qu'il représente. Et je pense que c'est le clivage là qui est un peu tendancieux, où on sait plus trop où est-ce qu'on va, parce que c'est bête à dire, mais les gens qui étaient encore fans il y a quelques années de groupes comme les Stones sont encore en place, mine de rien, et que ceux qui écoutent la musique faite actuellement sont dans leur chambre à piocher à droite à gauche, et ils en ont un petit peu rien à foutre de ce que les grands pontes des milieux financiers pensent, quoi. Donc on est vraiment dans une espèce de cyclone où on sait pas trop ce qu'il faut faire. Et je pense que, comme on dit, le cordonnier c'est le plus mal chaussé, et en tant que musicien, même nous on se pose la question à se demander, c'est mais on fait quoi là, c'est quoi, il faut sortir un CD, quoi. Est-ce que c'est vraiment la solution, est-ce que ça a vraiment apporté, ou est-ce que c'est juste une carte de visite?
Bah donc ça, le support en lui-même est complètement galvaudé, parce que déjà avec l'avènement du CD réinscriptible à l'époque, enfin du CDR, quoi, tout court. Moi je me rappelle quand j'étais petit, le premier CD que j'ai acheté, c'était The Wall de Pink Floyd. Et à l'époque, un CD, ça coûtait super cher, quoi. Par rapport à un vinyle, c'était deux fois plus. Parce qu'on nous vendait ça comme un truc indestructible, avec un son incomparable. Souviens-toi. Remember.
La belle arnaque.
Quelle arnaque.
Un petit peu, quand même.
Complètement, arnaque totale.
Ouais, ouais.
Et aujourd'hui, en fait, un CD, mais attends, tu joues au foot avec un CD, quoi. Ça n'a rien à foutre. Les gens balancent des CD tous les jours à la poubelle. Donc l'objet en lui-même, si tu veux, il est complètement galvaudé.
Mais c'était lui.
On peut pas lutter par. Tu vois, par exemple, le cinéma. Le cinéma a encore un attrait absolu, c'est que tu pourras jamais remplacer un écran géant. La sensation d'aller au cinéma, tu vois. Ça, c'est un truc qui est irremplaçable. Nous, ce qu'on a à proposer à ça en musique, c'est les concerts. Tu vois, tu pourras jamais remplacer la sensation à un concert. Tu pourras pas regarder un DVD live et ressentir la même chose que d'avoir l'artiste en face de toi. Est-ce que ça suffit? Je suis pas sûr. Le cinéma s'en sortira, je pense.
Oui.
Mieux, en tout cas.
Peut-être mieux.
La musique, ça devient compliqué. En plus, tout le monde s'y colle.
Je suis pas vraiment sûr.
Un contradicteur.
Non, je veux pas aller dans le débat, je veux pas entrer dans un débat, mais.
Ah, si, c'est bien.
Je pense que, tu vois, par exemple, pour faire court, l'année passée, c'est très bien passé pour le cinéma. Pourquoi? Parce qu'ils avaient ce qu'on appelle des gros blockbusters, et que ça a fait un gros carton. Maintenant, mais faut pas oublier qu'il y a quand même 2-3 ans, le cinéma était un petit peu étranglé. un peu étouffés de tous les côtés parce qu'ils se demandaient ce qui se passait aussi. Ouais. C'est pareil, ils avaient aussi du piratage et ça continue. Ils se font pirater 2000 avant même la sortie des DVD.
Ouais, mais l'industrie du cinéma, il y a d'autres ressources que nous on n'a pas en musique, c'est-à-dire que ils peuvent prévendre les films, tu vois, au télé, machin, donc avec les passages de pub, tout ça. Dans la musique, il y a pas ça. Tu prévends pas un album comme ça à une chaîne de télé ou à un autre média.
Ouais, c'est clair.
Il n'y a pas d'autre source de revenus, quoi. Donc ça devient plus compliqué.
Ouais, c'est l'achat du public, en fait. Hein. C'est ce que va
ouais, dire. Et puis même tout ce qui est téléchargement légal, bon, j'arrête pas de dire partout que ça repart à fond la caisse, que le téléchargement légal, c'est 85% des ventes de disques en France. Je suis désolé.
Ouais, 85% de rien, c'est pas difficile.
Et puis, un album qu'on télécharge, si tu peux l'avoir gratos, ce sera toujours moins cher que 5 euros, quoi.
Ouais, c'est clair.
Donc,
c'est clair.
C'est triste, hein, mais c'est comme ça. Hello, sir.
Hello, sir. Ok.
Un vampire qui vient de rentrer dans le studio.
Un, deux.
Salut, c'est l'éclate, hein.
Ah, mais ouais.
Bah oui, c'est l'éclate. Prends une chaise. On est en direct.
Oui, vous êtes en direct.
C'était monsieur Rémi Tanak.
Et il y a un Aaron ce soir. On continue un petit peu. Un tout petit peu. On va parler de l'album, puisque c'est quand même le gros projet. Et que ça va arriver.
On est au bout.
C'est le gros projet. Et que ça va arriver en fin d'année. Tu peux nous donner un petit peu la date de sortie de prévue de l'album?
Comment c'est pas encore prévu. Ah. Il n'y a pas de date officielle. Alors, moi, écoute. Dans l'absolu, ce qui serait génial, ce serait de le sortir le 10-10-10.
Ouais.
Mais bon.
T'aimes bien les chiffres aussi, toi.
Bah écoute. Ça pourrait être pas mal, ça pourrait être rigolo,
ouais,
en tout cas.
Ouais, ouais. Au niveau des morceaux, est-ce que. Donc, on l'a dit, il y a deux morceaux de l'EP qui vont se retrouver sur cet album.
Ouais.
Tous les autres morceaux existent, ça fait partie de la fameuse réserve dont tu parlais tout à l'heure. Comment ça se passe? Ou est-ce que tu es encore en cours de conception de morceaux pour cet album?
Bah, j'ai de quoi faire un album complet, ça c'est sûr, c'est fait.
Ouais. Mm-hmm.
Maintenant, je continue à écrire tout le temps. Donc,
d'accord.
On sait jamais ce qui peut se passer en cours de route.
Ouais. Ce qui veut dire que pour l'instant, le tracklisting n'est pas finalisé.
Non.
Ouais.
Non.
Tu saurais nous dire combien de morceaux sur cet album de prévu?
Il y en aura une douzaine.
Une douzaine.
Je pense, ouais.
Ouais.
Mais j'ai envie de faire plein de trucs aussi en plus, versions alternatives, des trucs
ouais.
comme ça.
Mm-hmm.
Donc une espèce d'ossature d'album d'une dizaine de titres.
Ouais.
Et puis peut-être des trucs en plus.
D'accord. Au niveau de l'enregistrement, est-ce que tu vois un peu plus clair comment ça va être fait? Est-ce que tu vas procéder de la même manière, c'est-à-dire travailler avec Matt Walker?
Parce qu'il y a des prises de son, oui.
Des prises de son,
ouais.
Travailler à distance également avec d'autres musiciens peut-être,
hein. Pareil. Tout ce qui est basse-batterie, ça va se passer de la même manière.
De la même manière.
Donc les batteries à Chicago,
ouais.
La basse à Montréal.
D'accord.
Tout ça revient en France.
Ouais.
On fait les guitares ici en Bretagne,
ouais.
Avec Gwen.
Mm-hmm.
Les voix, pareil.
Ouais.
Et après, non, le gros point d'interrogation, c'est le mixage.
D'accord, c'est ce qu'on disait, ce qu'on évoquait tout à l'heure. Quoi. Okay. Il est prévu d'autres intervenants sur ce disque que ceux que nous avons cités dans l'émission?
Non, je pense pas.
Non, le line-up est finalisé.
Ouais, vraiment que Peter Hook s'invite sur un ou deux titres.
Toujours tenté, tu sais, avec Internet.
Voilà. Je suis en contact avec le guitariste de Peter Murphy aussi, pourquoi pas.
Ah.
Qui sait, poète. Bah, qui est sur le même label que nous, en fait, sur Ecozone.
Ok.
Ce qui facilite un petit peu les rencontres.
Oui, aussi, oui.
Why not, c'est pareil, hein, je suis en contact avec lui en ce moment sur internet, donc why not.
Ce serait bien ça.
Bah ouais, parce qu'en fait, lui, l'avoir, ce serait en plus assez rigolo, parce que sur un morceau du EP qui s'appelle A Sea of Ashes, il y a une espèce de référence directe à Mission dans une phrase, mais c'est une référence dans le texte, pas dans la musique du tout. Quoi.
Ouais, ok.
Ça pourrait être marrant. Mmh. Et d'avoir sa grosse voix. Hein. Tu sais, moi j'ai encore le 33 tours que j'avais acheté quand j'avais 17 ans. Et, I still believe in God. Mais bon. Mais pour moi, ce serait un espèce de. En plus, bon, c'est un type qui est absolument pas populaire, tu vois, qui est pas connu. Enfin, ouais. Ma mère ne le connaît pas, par exemple. Mais pour moi, ça. Voilà. C'est peut-être en détail pour vous, mais pour moi, ça voudrait dire. Wayne Assay, guitariste des Sisters of Mercy.
Ah, oui, ça ferait bien hein, sur un sticker sur l'album. Tout ça, c'est des petits détails, mais qui, mine de rien, peuvent avoir un certain impact.
Ouais, enfin, au-delà de ça, ce sera déjà le plaisir personnel, quoi.
Ouais.
Tu vois, avant de penser à un espèce d'impact médiatique, ce sera déjà génial d'avoir d'une
sorte
part,
de rêve de gosse un peu qui se réalise.
Bah, de toute façon, depuis le début, c'est ça. Hein.
Ouais.
Tu sais, j'ai un ex Smashing Pumpkins qui est en plus le meilleur pote de Billy Corgan. Bon, voilà, si je peux avoir Wayne Hussey ou Guitars de Peter Murphy ou. Mais ça, c'est des connexions qui sont possibles là, via le label allemand, quoi. Tu vois.
Ouais.
C'est vrai que si on était juste en Bretagne, en autoprod. Bon,
c'est des choses qui sont pas imaginables. Ok.
Donc, bonne pioche. Il y aura peut-être des surprises, du coup, tu vois.
Ouais.
Tu viens de me filer plein d'idées. J'ai envoyé plein d'emails en Allemagne demain.
Pas innocent.
Ce sera de ta faute.
J'assume. Ok. D'autres choses à dire concernant cet album?
Un grand merci à M. Talek pour l'article dans West France qui est paru samedi, qui est absolument génialissime.
Je l'ai vu sur le.
C'est lui.
En Facebook, yes.
Bah, ça fait plaisir en tout cas.
Ouais.
Parce que là, on a, en fait, ça c'est un truc qui est génial sur ce petit EP là pour un groupe qui est absolument inconnu, c'est qu'on a eu une espèce de flow comme ça de coups de main locaux.
Ouais.
C'est assez inouï quoi. Et donc voilà. Double Elvis vous dit merci à tous.
Thanks very much. Nous on vous dit merci pour la musique aussi. Hein.
Bah écoute.
Quelque part ça nous fait des choses aussi.
Ah, c'est un plaisir.
Ok. Fabs, Kimo. Petit mot pour la fin. Non, allez
ça y est, je vais me
Fabs, donc, qui est aussi présent.
Oui, Fabrice qui bagouille. Voilà. Qui on attendait que lui toute la soirée.
Oui, c'est clair.
C'est monsieur qui met en lumière.
Qui met en lumière les concerts de WS.
Et qui le fait plutôt bien. Mm-hmm. Malgré qu'il soit jamais content de lui, mais bon, ça.
Ça fait partie de sa personnalité.
C'est un impondérable de la jeunesse.
Ok, Gwen, petit mot.
Bah écoutez, moi je suis très content d'être ici hein, déjà d'une part, mmh. Dire ça comme ça, parce que vu que je suis quand même l'étranger de l'étape, quelque
comment
part.
Comment ça
bah, il est de l'Orient.
Je suis un 56 moi, je suis un Morbihanais.
T'as ton passeport?
Ah oui, j'ai mon passeport, j'ai un visa pour un jour. Ils délivrent pas ça facilement dans la région. Non, tout se passe bien.
D'accord.
Et c'est pas fini.
Ok. Merci beaucoup à vous d'être venu, Double Elvis. C'était D6, tous les chansons, numéro 174, oui.
Déjà,
sur Fréquence Mutine, 103.8 FM. On va se quitter avec un titre que tu as évoqué justement tout à l'heure, juste à l'instant. C'était A Sea of Ashes.
Oui.
Donc la plage numéro 2 de l'EP. L'EP d'ailleurs que vous pouvez trouver dans toutes les bonnes crèmeries, même à Brest. Hein.
Il est à Dialogue, à la FNAC, à l'oreille cassée.
À l'oreille cassée, ouais.
Voilà.
On se quitte pour maintenant. Bonne continuation à vous. À bientôt, Double Luis.
À bientôt.
Pour l'album.